tout de suite l'invité des matins, Muriel Pénicaud.
France Culture, les matins d'été, Julie Gacon.
Notre invitée ce matin, Muriel Pénicaud. Bonjour Madame la Ministre.
Bonjour.
On va parler apprentissage, formation, chômage, on va parler avenir professionnel du nom de la loi qui repasse ce lundi à l'Assemblée Nationale. Un mot d'abord, Muriel Pénicaud, sur l'affaire Benalla. Alexandre Benalla, ce conseiller spécial d'Emmanuel Macron, qu'on voit rouer de coups un manifestant à terre lors du défilé parisien du 1er mai. Alors Muriel Pénicaud, vous êtes ministre du Travail, alors je vais pas vous prendre à rebours. L'Élysée a engagé il y a 3 jours seulement une procédure de licenciement alors que ses services ont été mis au courant dès le lendemain des faits, le 2 mai. Bon, finalement, l'Élysée est très attachée à la sécurité de l'emploi.
Je crois que tout le monde est d'accord que les images qu'on a vues sont inacceptables, choquantes. Le président de la République l'a exprimé aussi. Et c'est très clair qu'il ne peut pas y avoir d'impunité par rapport à la violence. Personne n'est au-dessus des lois. C'est pour ça qu'il y a 3 enquêtes qui sont lancées. Une enquête judiciaire, une enquête parlementaire et une enquête administrative. Donc je crois que il faut attendre le résultat de ces enquêtes qui vont vite, qui vont au fond. Parce que notre système de droit, c'est que c'est ces systèmes d'enquête qui disent le droit. Et je crois que maintenant, il faut attendre les quelques jours nécessaires pour ça. Après, je dirais, parce que l'actualité fait que cet après-midi, je serai probablement à l'Assemblée nationale pour la 2e lecture du projet de loi Avenir professionnel, pour la liberté de choisir son avenir professionnel. On va parler, je pense. J'espère qu'il n'y aura pas d'obstruction, parce que c'est vrai aussi que c'est cette affaire qui est effectivement, c'est condamnable. Ça, il n'y a aucun doute. Est aussi utilisé, je crois que personne n'est dupe, comme un moyen d'obstruction par rapport au débat sur la réforme constitutionnelle qui touche, bien sûr, au nom de parlementaires, donc à leur intérêt, à leur avantage. J'espère qu'ils n'auront pas le cynisme de faire l'obstruction par rapport à un projet de loi qui va permettre à des jeunes d'entrer en apprentissage à la rentrée. On a besoin que cette loi soit votée pour ouvrir les portes de l'apprentissage.
Même au sein de la majorité parlementaire, en tout cas des députés La République En Marche, certains aujourd'hui se disent atterrés et réclament aussi des explications, veulent savoir. Et vous comprenez ce silence de l'Élysée. Pour l'instant, Emmanuel Macron ne s'est exprimé que de façon indirecte.
Alors, je crois que c'est important que le président parle. Il parlera certainement, il s'exprimera directement ou par les personnes qu'il représente. Mais il faut aussi que les enquêtes mènent à terme. Enfin, le problème, ça n'est pas le commentaire, c'est le fond. C'est pas ici que je vais avoir besoin de... Que s'est-il passé vraiment? Et là, il faut faire confiance à la justice. Notre Constitution prévoit que la justice, c'est la justice qui juge. Et plus l'enquête parlementaire, plus l'enquête policière. Donc toute la vérité sera connue. Mais il faut laisser ceux dont c'est la charge faire l'enquête.
Voilà, un dernier mot, parce que c'est vrai que tout ça s'est passé le 1er mai, date symbolique pour vous, ministre du Travail, et qu'à l'époque, le gouvernement n'avait parlé que des violences venant des manifestants des Black Blocs ou des manifestants du défilé, mais qu'aujourd'hui, ça fait quand même mauvais genre, et ne serait-ce que pour vous, par rapport aux partenaires sociaux.
Non, je crois que ces sujets n'ont rien à voir. S'il y a des dysfonctionnements et qu'il y a des erreurs ou des fautes d'une ou plusieurs personnes, ça ne met pas en cause toute la République. Et c'est vrai que le 1er mai, moi, ce qui m'a attristé en tant que ministre du Travail, parce que le 1er mai est une date importante dans l'histoire sociale, c'est qu'il y ait 1200 Black Blocs qui... Mais c'est comme un peu à la fin du cortège des Bleus. Il y a des choses qui sont importantes. Le droit de manifester, c'est important. Ça fait partie des libertés fondamentales. Et puis, ensuite, il y a le discrédit qui est donné par une toute petite minorité. Mais ça, c'est...
Voilà. Quant à ce qu'a réellement fait et pourquoi Alexandre Benalla, donc on le saura à l'issue de l'enquête administrative qui a été ouverte ainsi que de l'enquête judiciaire. Donc l'affaire Benalla, c'est une chose, mais vous le disiez, il y a 7 millions de chômeurs en France, dont 3 400 000 n'ont aucune activité.
2 millions 9.
2 millions 9. Les derniers chiffres, c'est 2 millions 9.
Oui, non, les 7 millions, vous comptez les gens qui ont un travail, qui cherchent un emploi, c'est pas des chômeurs.
Qui sont à Pôle emploi.
Oui, mais il y a des gens qui ont un travail, qui sont à Pôle emploi pour chercher un autre travail. Donc il ne faut pas confondre avec les chômeurs.
Et donc vous, le chiffre que vous retenez de toute façon sur la base
c'est 2 millions 9.
2 millions 9. Et donc...
C'est déjà beaucoup et beaucoup trop.
C'est beaucoup trop de toute façon. Au cœur de ces politiques d'emploi que vous voulez mener, il y a l'apprentissage. C'est vrai que l'enjeu est énorme dans la politique d'emploi. On ne parle plus du tout d'objectifs chiffrés. 500 000 contrats d'apprentissage, comme on le promettait en 2014 pour 2017, ce n'était pas réaliste, ça ne l'est toujours pas.
Non, mais je crois que, vous savez, il faut bien comprendre quel est le rôle du gouvernement. Le gouvernement peut décréter des chiffres. Le rôle du gouvernement, c'est de fixer le cap, certes, mais surtout fixer le cadre qui permet aux acteurs de s'en saisir. En clair, les jeunes, les familles et les entreprises pour l'apprentissage. Donner un chiffre qui d'ailleurs n'a pas du tout marché. à chaque fois qu'on déclare des chiffres comme ça, voilà, d'en haut, ça ne sert à rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que grâce à la réforme de l'apprentissage, qui va être dans le projet de loi Avenir Professionnel, si il n'y a pas d'obstruction au Parlement cynique sur ce sujet, grâce à ce projet de loi, l'Assemblée permanente des chambres de métiers et d'artisanat dit qu'il faut faire plus 60 000 apprentis. Le Conseil de l'industrie, plus, ils vont augmenter de 40%, c'est 25 000 apprentis en plus. La Fédération française du bâtiment s'engage dans un programme 15 000 bâtisseurs d'avenir pour les jeunes. Les compagnons du devoir vont doubler de taille. Donc, ce qui m'intéresse, c'est les engagements des entreprises et la volonté des jeunes. Et ce qui me fait, qui me donne confiance, c'est que là, à la sortie de troisième, pour la première fois, plus 45% de demandes de l'apprentissage. Donc, quelque chose est en train d'évoluer dans le pays là-dessus. Mais c'est la force des engagements collectifs, c'est la somme des engagements collectifs qui compte beaucoup plus qu'un chiffre que donnerait le gouvernement. Donc, on est beaucoup plus ambitieux, finalement.
Et l'ambition est aussi de faire coïncider offre et demande d'emploi, parce qu'on sait aujourd'hui que dans certains secteurs industriels, l'activité a repris, mais que derrière, les apprentis ne sont pas là parce que certains CFA ont fermé, par exemple, ou certaines branches. C'est aussi le résultat d'un 30 ans de discours sur la fin de l'industrie. Il y a eu une irresponsabilité politique là-dessus.
Je crois qu'il y a deux choses. Il y a eu... on a perdu 1 million d'emplois dans l'industrie. Donc, le temps que tout le monde comprenne, mais en fait, que l'industrie recrée des emplois, qu'il y a plein d'opportunités pour des jeunes, qu'il y a des métiers passionnants, des métiers anciens qui sont devenus rénovés, il y a du numérique partout, il y a des métiers d'avenir, mais aussi... ce qu'on dit sur l'apprentissage, je crois que c'est en train de bouger, mais c'est en France, on croit que la tête et les mains, c'est deux choses différentes. Ce qui est contre toutes les évidences scientifiques et culturelles, et on le sait bien dans les autres pays, mais en France, on a encore cette dichotomie qui, je crois, est en train de bouger. Qui est une question, pas que d'image, mais sur le fond. Comment on apprend? Quand vous écoutez Montessori ou Freinet, mais quand vous écoutez Boris Cyrulnik, quand vous écoutez Sherpa qui a créé les mains à la pâte, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'on apprend si on a de la joie d'apprendre, le plaisir d'apprendre, et en faisant. Et le faire pour apprendre, c'est tout le propos de l'apprentissage. C'est une autre voie pédagogique qui est aussi valable, et qui est aussi valable que apprendre et puis un jour faire. Et c'est tout l'enjeu culturel. Pour moi, il y a un enjeu culturel dans l'apprentissage, c'est que oui, on peut s'élever en faisant et en apprenant en faisant.
Mais alors, le rôle de l'éducation nationale là-dedans est majeur, puisque c'est à elle aussi d'encourager. L'apprentissage a souvent été considéré comme une voie de garage, mais la responsabilité des entreprises aussi, les entreprises et surtout les grosses boîtes, comme on dit, elles ont pris l'habitude de recruter à Bac plus 5 et de ne pas prendre le temps de former les jeunes.
Alors ça aussi, je crois que c'est... vous allez peut-être me trouver trop optimiste, mais je crois que c'est en train de changer. Pourquoi ? Parce qu'avec la reprise économique, je rappelle qu'on a créé 288 000 emplois net l'année dernière en France et 48 800 au premier trimestre. J'attends les chiffres du deuxième.
Mais alors, le gouvernement ne veut plus être comptable des chiffres du chômage quand ça baisse, mais quand ça monte.
Non, pas du tout. Je fais pas de pronostic, c'est tout. Par contre, j'attends que ce soient les chiffres définitifs pour les commenter. Et les chiffres les plus robustes sont ceux de l'INSEE reconnus par le Bureau international du travail. Je ne commande que des chiffres robustes, que les experts ont débattu, dont c'est sûr qu'ils sont stables. Par rapport à cette reprise de croissance, il y a effectivement des nouvelles opportunités. Et l'autre jour, il y avait le président de la République réunissait 100 entreprises, grandes entreprises, qui vont s'engager. Mais c'est aussi les petites. La moitié des emplois en France, elles sont dans les petites et moyennes entreprises.
Les PME,
et c'est
bien
là qu'on
sûr,
crée c'est... le plus d'emplois. Elles sont un peu les méconnues du système, alors que c'est elles qui sont au cœur de la création d'emplois.
Et pourtant, quand Emmanuel Macron parle apprentissage, il réunit les patrons des 100 plus grandes entreprises françaises pour en parler la semaine dernière en disant rendez-vous dans 6 mois pour faire un point. Mais les PME, comment on les replace au cœur de tout ça?
Non, les grandes entreprises... On réunit aussi beaucoup, on a travaillé énormément avec l'Assemblée permanente des chambres de métiers, avec les fédérations professionnelles qui sont toutes en train de s'engager, comme je le disais. Mais je crois que c'est important aussi que les grandes entreprises soient un peu des modèles. Même si c'est pas les plus grands nombres au total, parce qu'il n'y a pas une centaine de très grandes entreprises, c'est très important qu'elles prennent la voie. Et dans le projet de loi, elles vont pouvoir créer des CFA pour leurs propres besoins, mais aussi pour leurs fournisseurs, pour leurs clients, pour leur territoire, leur écosystème. Donc ce qu'on attend d'elles, c'est aussi qu'elles s'engagent, parce que c'est la bataille pour les jeunes, la bataille pour les territoires.
Donc les branches vont être partie prenante des fermetures, ouvertures de CFA, partie prenante des programmes
fermeture,
aussi.
Personne ne peut plus fermer. Arrêter les fermetures. Justement, on va sortir d'un système malthusien, un système où tout le monde peut être à l'initiative de la création d'un CFA.
Alors, l'apprentissage rouage primordial des politiques d'emploi, mais là non plus, on ne peut pas échapper à la conjoncture. Si l'économie va mal, le contrat d'apprentissage ne fera pas de miracle. Le chômage ne résulte pas que d'un problème de formation.
Bien sûr. Mais aujourd'hui, on a le paradoxe d'avoir à la fois une reprise économique, mais on n'arrive pas à la transformer en grande baisse du chômage. Pourquoi ? Parce qu'il y a un déficit de compétences. C'est-à-dire que que disent les entreprises ? Moi, je vois énormément de PME, TPE. J'étais l'autre jour à Plougastel, près de Brest. Il y avait 400 chefs d'entreprise. Ils disent, après les ordonnances, on n'a plus peur d'embaucher, mais on ne trouve pas les compétences. Et on leur dit, mais vous allez pas les trouver sur étagère, il faut les construire ensemble, il faut donner la chance aux jeunes. C'est pour ça que là, d'ailleurs, l'apprentissage, on va le permettre de faire jusqu'à 30 ans, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, vous savez, ils sont allés à l'université, ils ont un peu erré, ils ont cherché, puis à un moment donné, ça y est, ils ont trouvé leur voie, il faut qu'ils puissent la réaliser. Mais pour ça, il faut que une des batailles importantes pour lutter contre le chômage, il fallait les ordonnances, il faut maintenant la bataille des compétences, et puis il faut la bataille de l'inclusion pour tous. Il faut les trois batailles pour réussir.
Mais c'est vrai que si on reste sur l'industrie deux secondes, on voit des pénuries de main-d'œuvre, par exemple, dans certains secteurs comme le textile, par exemple. Dans la région de Cholet, il y a tellement peu de main-d'œuvre qu'ils reçoivent des commandes qui partent en Italie. Oui. J'entends encore ce directeur de CFA dans le Nord dire on a 132 places à pourvoir, on manque de candidats, l'industrie a tellement mauvaise image qu'on n'a plus de candidats. Les familles sont hantées par le spectre de la désindustrialisation. Est-ce qu'on va remettre l'industrie au cœur de l'économie et notamment arrêter, par exemple, je pense aux ouvriers de Whirlpool dont l'usine va fermer et à qui on dit vous allez chausser des patins à roulettes et vous allez déambuler dans les hangars d'Amazon, c'est-à-dire basculer dans le service parce que ce sont les services et c'est le tertiaire qui est l'avenir.
Alors vous posez deux questions très importantes. La première, c'est l'avenir de l'industrie. Moi, je suis convaincue qu'un grand pays ne peut pas se développer s'il n'a pas une industrie forte. On a effectivement perdu beaucoup d'emplois dans l'industrie en France, mais on a encore des groupes et des entreprises, grandes et petites, de très grande qualité et qui exportent dans le monde entier, qui sont des champions dans leur domaine, connus ou inconnus. Donc on a un potentiel industriel et l'industrie crée beaucoup d'emplois autour, hein, parce qu'il y a beaucoup d'emplois de services autour d'une industrie. Donc il ne faut pas forcément opposer industrie et service. Là, c'est un travail du secteur industriel lui-même, mais aussi de vulgarisation. Pas beaucoup de gens savent que on peut être forgeur numérique, pas beaucoup de gens savent qu'un soudeur, ça commence à 3000 emplois avec un CAP. Les gens ont une image de Zola, hein, de l'industrie. L'industrie d'aujourd'hui ne correspond pas aux représentations. Là, c'est une des batailles.
La faute aussi des discours politiques et des politiques d'emploi qui ont coulé quand même l'industrie française.
On a désinvesti. Enfin, l'industrie a été en difficulté, elle s'est transformée peut-être plus lentement qu'ailleurs. Maintenant, elle est très performante, et donc elle repart de l'avant, et donc c'est une bonne chose, il faut accompagner le mouvement. Ça c'est une question clé. Après, l'autre question que vous posez, c'est quand vous donnez l'exemple d'emplois industriels qui deviennent des emplois dans la distribution, la logistique, on ne peut pas croire que l'économie va échapper à la transformation numérique ou à la transformation écologique. Donc, il faut en faire une opportunité. Moi, je comprends que certains salariés le voient comme une menace. Regardez ce qui se passe dans la distribution actuellement. Nous achetons tous beaucoup sur Internet. 20% du commerce se fait par e-commerce. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire moins de magasins, en vrai. Ou moins des magasins plus petits ou qui font du showroom seulement. Et par contre, il y a énormément d'emplois qui se créent dans les transports et la logistique. Donc, bien sûr, il faut accompagner ces transitions pour que les salariés puissent avoir des occasions de se reclasser et le choix, d'où l'importance qu'ils aient un vrai droit à la formation qui n'existe pas aujourd'hui en France, hein, et qu'on va donner à travers le projet de loi, mais aussi qu'on anticipe et qu'on accompagne ces mutations pour que je comprends la peur du changement, mais de toute façon, le changement arrive. Il y a une révolution de 50% des métiers dans les 10 ans qui viennent. Il faut qu'on aide chacun à pouvoir finalement être outillé. Parce que vous savez, ceux qui ont une qualification, une compétence, il n'y a pas de chômage. C'est ceux qui ont les moins qualifiés qui subissent le chômage.
Donc faire en sorte que l'apprentissage, tout comme la formation professionnelle, soit au service, entre guillemets, de l'économie, c'est-à-dire...
Et du social.
Coïncide aux nouvelles opportunités, aux nouvelles économies. Pour les chômeurs aussi, pour ceux en tout cas ceux qui sont démissionnaires et qui devront présenter un vrai projet en phase avec les besoins du marché pour pouvoir être indemnisés comme le promettait Emmanuel Macron dans son programme.
Alors c'est pas forcément en phase. Ce qu'on prévoit dans la loi, c'est que quelqu'un qui a un emploi et qui a un projet professionnel, ça peut être une reconversion. En général, quand on se reconvertit, on veut aller vers quelque chose où il y a de l'emploi. Mais ou bien une création d'entreprise, par exemple. Parce que, vous savez, on a 500 000 créations d'entreprises l'année dernière. La moitié, c'est des micro-entreprises. C'est aussi cette effervescence entrepreneuriale qui crée de l'emploi. C'est pas que l'emploi salarié. Et donc, il faut que ceux qui puissent, ceux qui veulent, qui ont un projet, et c'est ce que le projet de loi prévoit, puissent avoir un droit à l'assurance chômage, le temps de monter leur projet. En gros, du temps et de l'argent. Parce que si vous êtes salarié et que vous voulez créer votre entreprise, c'est difficile de faire les deux à la fois quand même.
Et pour ça, il faut être bien encadré, il faut être bien suivi par des conseillers Pôle emploi. Le rapport CAP 2022 que dont le Figaro a dévoilé quelques lignes la semaine dernière, parle du nombre d'agents de Pôle emploi en préconisant de redimensionner Pôle emploi afin que ses effectifs varient en fonction du cycle économique. Et Matignon semble adhérer à cette vision-là. Donc chez Pôle emploi aussi, on fait de la flexibilité?
Non, je crois que c'est deux sujets différents. Un, il y a besoin d'accompagnement et il y a Pôle emploi, puis il y aura les conseils en évolution professionnelle. Chacun des 26 millions d'actifs en France aura droit à un conseil en évolution professionnelle gratuit, à disposition, qui va être labellisé pour sa qualité. Et ça, c'est important parce que comment choisir son avenir si on connaît pas soi-même et le marché.
Mais aujourd'hui, dans certaines agences, certains conseillers ont 320 personnes alors qu'ils devaient avoir 60 à 80 personnes.
Dans la transformation que le directeur général de Pôle emploi avec... tout mon soutien est en train de faire, on distingue s'il y a des demandeurs d'emploi qui demandent juste, notamment les plus qualifiés ou ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent, qui demandent juste une mise en relation avec les offres d'emploi. Donc ils demandent un service, c'est j'ose dire assez simple à l'heure du numérique, qui est ils demandent l'indemnité et cette mise à disposition. D'autres ont besoin de plus d'accompagnement et d'autres ont besoin de beaucoup d'accompagnement parce qu'ils ont des difficultés d'emploi, mais aussi parfois de santé, de logement. Il faut travailler aussi avec les autres partenaires, les travailleurs sociaux, du département, par exemple. Et donc là, il faut un accompagnement renforcé. Donc, ce que fait de plus en plus Pôle emploi, c'est que dématérialise tout ce qui est tâches administratives et met ces emplois-là plus sur l'accompagnement de ceux qu'on a le plus besoin. Après, il est normal aussi, on a à fur et à mesure que le chômage a augmenté, on vient de vivre 20 ans de chômage de masse. À chaque fois, on a augmenté les effectifs de Pôle emploi, ce qui est normal. C'est normal aussi que si le chômage baisse, on baisse aussi les emplois. Je pense que tout le monde peut le comprendre.
Comment vous remettez Pôle emploi au cœur du dispositif? Parce que Pôle emploi peut avoir un rôle primordial, et je pense à certaines villes où on a lancé par exemple le dispositif recrutement sans CV, donc on met les gens en situation, et puis
trouver leurs compétences.
Voilà, marché conclu, mais dans d'autres... Certains patrons de PME vous disent que dans leur localité, jamais ils ne reçoivent un mail de Pôle emploi pour leur proposer le CV d'un demandeur d'emploi, et que finalement aujourd'hui le premier site d'annonce c'est Le Bon Coin ou les agences d'intérim, mais que Pôle emploi est absent.
Oui, alors je crois que par d'exagération, Pôle emploi n'est jamais absent. Après, il y a un rapport offre-demande, comme je disais. Aujourd'hui, vous savez, les cadres, il n'y a quasiment plus de chômage. On est à 4% de chômage. C'est ce qu'on appelle le chômage frictionnel, le temps entre deux jobs. Il y a quasiment plus de chômage des cadres. Les plus qualifiés, Bac+2, etc., on est déjà à 5,6% de taux de chômage. On va encore baisser. Mais donc, ceux qui ont le plus de mal, c'est ceux qui n'ont pas la qualification, plus les sujets de mobilité. Les deux grands freins, c'est ça. Quand on interroge les entreprises qui ont des difficultés de recrutement, il y en a beaucoup, il y a plusieurs centaines de milliers d'emplois, au moins 200 ou 300 000 actuellement, comme l'année dernière, qui ne sont pas pourvus. Le premier sujet, c'est trouver les compétences. Il y a des tas de métiers, on ne peut pas s'improviser comme ça. Et donc, c'est pour ça que les dispositifs de formation, il faut les renforcer. On a formé, en moyenne, sur les 15 dernières années, il n'y avait qu'un chômeur sur 10 qui avait le droit à la formation. Mais alors, vous vous rendez compte, ils avaient un métier qui a évolué pendant ce temps-là, pendant qu'ils étaient au chômage. Et en plus, il y a tous les nouveaux métiers qui se transforment. Si on ne les aide pas à monter dans le train, il faut de la compétence pour monter dans le train. Comment voulez-vous qu'ils trouvent? Et l'employeur dit, vous n'avez pas les compétences. Parfois, c'est vrai. Parfois, il n'y a pas les compétences.
Et les plus démunis en formation, ceux qui sont sortis un moment du système scolaire, ceux qui, forcément, ont peur de l'échec s'ils se lancent dans une nouvelle formation, comment vous les attirez à ça?
Alors, moi, c'est une de mes grandes priorités. Je vous l'ai dit, pour lutter contre le chômage de masse, il y a les ordonnances, libère le travail. Ensuite, c'est vraiment la stratégie compétences dont on est en train de parler. Et puis, il y a toute l'inclusion des plus vulnérables. Et là, c'est pour ça que on va créer 9 nouvelles écoles de la deuxième chance. C'est pour ça que dans la loi, on prévoit des choses. On va renforcer, on va permettre de doubler les places en entreprise adaptée pour ceux qui ont un handicap, mais qui ont des capacités de travail et qui veulent aller travailler, et beaucoup vers le milieu ordinaire. On va rajouter aussi 200 millions d'euros pour les entreprises intermédiaires, l'insertion par l'économique. Donc, voilà. Il y a beaucoup de mesures, parce que moi je crois que nul n'est inemployable. Mais il faut aller chercher à chacun là où il est et l'aider à aller vers l'emploi. C'est ça aussi la promesse républicaine d'émancipation, de solidarité.
Muriel Pénicaud, vous restez avec nous pendant le journal. On parlera contrat court, flexibilité après le journal et aussi de la philosophie politique de tout ça. La société fluide qui semble se dessiner petit à petit, un monde où on pourrait se former tout au long de sa vie, passer sans problème d'une entreprise à l'autre, d'un métier à l'autre et même d'un statut à l'autre. À tout à l'heure.